Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast Livre Audio avec Cyril Godefroy
et Florian Denisson.
Dans ce podcast, on parle du livre audio sous toutes ses formes, de tous les éditeurs, sur toutes les boutiques. Abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, sur le site livreaudio.net ou avec votre lecteur de podcast préféré. Et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir et en plus ça nous aide. Bonjour à tous, aujourd'hui de quoi va-t-on parler Cyril ?
On va parler de Tutur à l'ange. Ah bah non, Tutur à le père de Sandrone Dazieri. Alors on vous prévient, on va voir l'accent italien à la française pendant toute l'émission.
Non, moi je veux dire Sandrone Dazieri.
Voilà, lu par Mathieu Buscaro.
Buscato.
Pardon, une aventure de... Une aventure.
Colomba Caselli et voilà. De Dante Torre.
Voilà, donc c'est un policier, thriller.
Ouais, thriller.
C'est vraiment... Enfin, c'est un thriller, mais c'est, c'est vraiment un policier à la
Colomba
base.
Colomba Caselli, c'est une flic.
Voilà. Et Dante Torre, c'est pas un flic.
C'est pas un flic.
Mais voilà. Donc,
non, mais c'est bien thriller quand même.
Ouais, c'est bien thriller. Donc, c'est un très, très bon livre dont on va vous parler.
Ouais.
On va commencer par un extrait.
C'est parti.
Pour éviter les visites surprises, Dante avait mis l'appartement au nom de Minutilio. Et il ne communiquait l'adresse qu'à un nombre très restreint de personnes, toutes triées sur le volet. Il avait pris cette décision lorsque le père d'un enfant disparu avait débarqué sous la terrasse de son ancien appartement, criant et pleurant une journée entière. La femme fixa le Judas d'un œil vert, et Dante comprit qu'elle avait dû voir son ombre bouger derrière la porte. « Monsieur Torre, dit-elle, je suis le commissaire adjoint Caselli. J'ai besoin de vous parler. » Elle avait une voix légèrement rauque, que Dante aurait trouvé sexy si elle n'avait pas été celle d'un flic. Il mit la chaîne et entr'ouvrit prudemment. Colomba le fixa, puis elle sortit sa carte et la lui mit sous le nez. « Bonjour. »« Je peux la voir de près ?» demanda Dante. Colomba haussa les épaules. « Je vous en prie. »
Ok, donc c'était lu par, comme on l'a dit, Mathieu Buscato, qui a fait une pléthore de...
Oui, une pléthore de livres, à la fois pour les studios Audible et pour Audiolib.
Il a fait le deuxième dont tu parlais, Tutur à l'ange aussi, c'est bien. C'est agréable d'ailleurs de retrouver la même voix. Hein, pour, on n'a jamais parlé ça, mais...
Si, on en a parlé.
Ouais, c'est vrai, on en a parlé.
Ah,
non, c'est comme un doublage de film, quoi. Ouais. Si on regarde un film en français avec la voix de Bruce Willis, on aime bien que... C'est la voix de Bruce Willis.
Colombo, le père Sauvion.
Oh là là, oui. Alors moi, je regarde les films en VO, hein, perso, mais...
Moi aussi, mais Colombo, c'est la télévision, ça passe
ouais,
en français.
Ouais, sur TMC ou je sais pas quoi.
Non, mais sur la Une.
Eh ben...
Ouais, enfin bon, laisse tomber.
Ok.
C'est pas la même génération.
si, je regardais sur la Une, attends. Donc, Cyril, on va faire comme d'habitude, on va parler d'abord de l'aspect technique du livre.
D'accord.
Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qu'il y a à dire?
Alors, moi, sur l'aspect technique du livre, il y a deux gros reproches.
Ah, putain, mais décidément, t'es venu avec tes valises de reproches.
Moi, je suis le Grinch. Deux reproches. Le premier, c'est que je trouve que la voix, on a l'impression qu'il parle quand même un peu dans une boîte de conserve.
Ah ouais?
Ouais, je trouve qu'à l'enregistrement, particulièrement au début, il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la voix. Et puis alors, le niveau sonore est vraiment... vraiment, vraiment faible.
Ouais, et le 2 aussi, et d'ailleurs. Je suis en train d'écouter le 2, et c'est pareil.
Alors, c'est une maladie un peu du livre audio.
Il n'est pas vraiment, vraiment faible, mais si, il est faible.
Sur celui-là, je trouve qu'il est faible par rapport à...
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
De manière générale, le livre audio, le niveau sonore est faible. C'est-à-dire qu'on demande aux narrateurs et aux ingénieurs du son qui font l'enregistrement d'avoir un niveau sonore qui est positionné à certains endroits.
Oui.
Et voilà, de manière à ce que ce soit confortable à utiliser, que ça ne risque pas de saturer, etc. Donc, c'est en général faible, et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui remarquent que les livres audio, le son est faible.
Moi, je mets fort. Hein.
Moi, je suis obligé systématiquement de mettre fort.
Ouais.
Et là, sur ce livre audio, je ne mets pas fort, je mets très fort.
Ouais, moi, je mets à fond.
Là, je suis obligé de mettre à fond. Ouais. Ou alors de sortir avec mon casque, avec...
Le réducteur de bruit, là.
Non, avec mon casque, avec les deux oreilles prises à l'intérieur pour pouvoir... bien entendre quand je suis en train de me balader, etc. Parce que sinon, le bruit environnant m'empêche d'écouter.
Ouais, c'est vrai que, comme je te disais, je suis en train d'écouter le 2, donc c'est pareil, c'est la même production, le même narrateur. Et à chaque fois, je dis, mais je suis à fond ou pas ? Il suffit qu'il y ait dans le métro, dans le train, ou... c'est un peu gênant des fois.
Et comme je fais quand même attention à mes oreilles, j'aime pas trop mettre le son trop fort, parce que je ne sais jamais, mais là je suis obligé de le faire, parce que sinon, j'entends pas ce que dit Biscotto.
Buscato.
J'arrive pas. Je pense à un autre Mathieu, c'est pour ça.
Voilà, donc, c'est pas donc, techniquement, un défaut en soi, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Ça dépend le système.
Ouais, donc il faut,
quand t'écoutes dans ta voiture, tu peux mettre à fond. Hein,
ça dépend quelle voiture t'as. Si t'as une Rolls-Royce, c'est pas de problème. Mais si t'as une 4L, si t'as une 4L et que ça vibre dans tous les sens, ça va être difficile de l'entendre.
J'ai jamais entendu de système sonore de fou dans une Rolls-Royce. Mais...
Moi non plus. Je suis jamais monté dans une Rolls-Royce, d'ailleurs. Voilà.
Techniquement,
donc
ça,
techniquement. Ensuite, il y a un autre truc.
Ah.
C'est un peu comme avec Sophie-Marie Larouille.
Oui.
Ils nous ont coupé ça comme des chacals.
Ah, ça, j'ai pas fait gaffe.
Donc, on se retrouve avec un nombre de chapitres qui ne correspond pas... Enfin, un nombre de fichiers audio et un nombre de marqueurs dans le livre et dans l'application quand on écoute, qui ne correspond pas au chapitre.
Ah, mais ça, c'est... Alors, je vais te dire un truc, Cyril. Moi, c'est 80% du temps.
C'est insupportable.
C'est 80% du temps. Des fois, il y a 57 chapitres.
C'est écrit noir sur blanc qu'il faut avoir... Un chapitre ou un machin.
C'est sûr que je te dise, il y a des passe-droits, c'est tout.
C'est insupportable. Et donc là, on se retrouve avec 23 chapitres, ouais. Alors qu'il y a différentes parties, et à l'intérieur des parties, plusieurs chapitres, et...
Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas découpé normalement,
ouais,
comme
je
ne
comprends
livre,
pas pourquoi ce n'est pas découpé correctement.
Ouais.
Correctement. Après, en tant qu'audio-lecteur, en tant que personne qui écoute le livre audio, ça me gêne, vraiment, parce que... Alors, ça m'énerve au niveau du fait qu'il y ait des passe-droits, qu'il y ait des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire.
Ouais, c'est une chose. Ça, c'est autre chose.
Mais surtout, en tant qu'audio-lecteur, ça m'embête parce que ça m'est arrivé, justement, sur ce livre-là, à nouveau,
ouais,
de vouloir revenir au début d'un chapitre. J'appuyais sur le bouton...
Revenir en arrière,
au début du chapitre, et je me suis retrouvé 5 chapitres avant.
Ouais, ça, c'est... Ouais.
C'est insupportable.
C'est insupportable.
Table.
J'avoue. J'avoue qu'on a un peu le Grinch dans le studio aujourd'hui, mais mais c'est pas grave.
Pardon.
Non, mais t'as raison. Des fois, moi, je m'endors, par exemple.
Oui.
Et ouais, c'est sûr que ça tu te dis, ah oui, j'étais...
au début de ce chapitre-là.
Oui,
voilà.
Ça a dit chapitre 12. Voilà. Et
tu essaies de revenir au chapitre 12 et tu te retrouves au début
chapitre
du
8.
Chapitre 4.
Ouais. Non, c'est sûr.
Ça fait mal.
C'est sûr. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi ils font ça, en fait.
Moi non plus,
il n'y a pas plus simple.
Il n'y a pas de raison.
Non, en plus, c'est beaucoup plus simple quand tu produis un livre audio de faire correspondre exactement comme le livre. Au moins, tu es sûr de ne pas te planter, quoi.
Exactement.
Bon.
J'ai eu des répétitions aussi. J'ai eu une ou deux répétitions, donc là aussi.
T'arrives bien les...
Carton jaune.
T'arrives bien à les avoir. Moi, je repère jamais les répétitions. Et je sais pas.
Oui, là, en l'occurrence...
Faut pas faire bien attention.
Non, t'écoutes pas, en fait, les livres audio.
Ouais, je les écoute pas.
Donc, techniquement, je suis pas très content.
Non, mais il y a toujours une répétition ou deux dans un livre audio. En vrai, je dis que je les repère pas, mais...
Oui, ça arrive assez souvent, c'est assez difficile.
Bon,
en plus, c'est un livre qui dure 18h32 minutes.
Là, on en a pour son argent. Hein.
Oui, alors quand le monsieur il m'a dit, je suis en train d'écouter celui-là, de lire, voilà, tu devrais prendre le même et on va faire un podcast dessus, et qu'il m'a dit ça 4 jours ou 5 jours avant qu'on enregistre le podcast, j'ai fait.
Donc, tu es en train de me dire que tu n'as pas fini.
Non, j'ai pas fini.
Bah, moi, je l'ai fini. Donc
toi, tu es tricheur. On peut faire la même chose aussi. Moi, il y a plein de livres audio que j'ai lus. On va dire
okay.
Donc, celui-ci, j'ai pas fini de le lire, je suis désolé. En venant chez toi, j'étais en train de l'écouter en deux fois pour essayer de rattraper le retard.
Ça doit être horrible.
Il me reste 4 heures.
Ça marche comme ça.
Ah, c'est insupportable. Mais je l'ai fait. Donc, pour essayer, pour voir est-ce que je vais gagner du temps là-dessus.
Ouais.
Et voilà. Bon, donc, je l'ai pas lu en entier. Donc, j'aurais du mal à parler complètement du contenu et de l'histoire dans la troisième partie, parce que là, on va aborder la deuxième partie, qui est la partie narration de Mathieu Buscato. Et là, par contre...
Bon, Mathieu Buscato...
Mathieu Buscato, il est
professionnel de la profession.
Voilà, il a fait une bonne quinzaine de livres audio. On sait pourquoi.
Oui, oui. Est-ce que je peux ajouter un truc de Grinch ?
Vas-y, Grinch.
C'est qu'à la différence d'autres, on a un peu plus de mal à distinguer les personnages. Il fait un peu moins de nuances chez les femmes, notamment quand il y a un peu des dialogues assez rapides.
Oui, mais là, moi, alors, bon, c'est marrant parce que il le fait pas. Mais alors, franchement, dans la lecture dans la manière dont c'est écrit, etc. Quand un personnage parle,
oui, on reconnaît. Oui, oui.
On sait qui est en train de parler.
Très bien écrit. Moi, j'adore.
C'est très bien écrit.
Ouais, j'adore.
Alors ça, c'est magique. Donc il n'y a pas besoin de le faire.
Oui, mais bon, j'ai essayé de faire le Grinch. Bon, bah voilà, je suis pas arrivé. J'ai essayé de trouver un truc.
T'es trop gentil, Florian. Tu n'y arriveras pas. Laisse-moi ce rôle. Moi, je suis vieux.
Non, mais des fois, je suis un peu perdu comme ça, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, au fond, nous, le cerveau sait qui parle.
Là, on sait vraiment très bien qui parle. Donc voilà, une narration. Franchement.
Oui, en plus, on est vachement pris dedans dès le début. Voilà. Je trouve que, je sais pas, sa voix est vraiment bien. Et elle correspond au style, quoi, vraiment. Oui. C'est thriller, enfin voilà, c'est alors, vraiment
il est
bien.
Il est jamais dans l'exagération.
Non, il est très calme, très posé.
Ouais. Parfois même un petit peu lent.
Un peu, ouais.
Comme on en parlait la dernière
c'est
fois,
son style,
parlait de Bernard Minier, je pense que c'est une recommandation qu'il lui donnait de parler lentement. Enfin, il n'est pas aussi lent que.
Notre ami qui a...
Oui, voilà, dont j'ai oublié le nom.
Moi aussi, j'ai oublié.
Voilà. Mémoire de poisson rouge. mais voilà. Donc, sinon, narration donc impeccable, franchement. Et c'est dommage que sa narration soit un peu gâchée, je trouve particulièrement au début.
Par le son, hein, tu
par
veux
le
dire.
Son, ouais.
Ouais, mais après, ça dépend des écouteurs que tu as aussi. Hein, parce que des fois, tu remarques des choses que tu ne remarquerais pas avec d'autres écouteurs.
Là, je n'ai pas écouté avec des écouteurs de folie. J'ai écouté avec mes AirPods.
Ça n'a rien à voir. Justement, ça n'a rien à voir avec la qualité des écouteurs. C'est juste qu'il y a certaines fréquences qui sont accentuées ou diminuées. Et du coup, bah, s'il y a un défaut, comme tu le dis dans les fréquences, avec un effet tube de PVC, j'appelle ça, moi, mais... ça peut être accentué par certains écouteurs, voilà.
Bon, je réécouterai ça avec un vrai casque extra over the head. Voilà, pour voir si le problème existe toujours. Après, l'histoire. Bah, donc, l'histoire, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas fini de le lire et tu vas être gentil, vas pas me spoiler, hein ?
Non, je te spoil pas. En plus, je l'ai écouté il y a l'année dernière, je crois.
Donc, tu t'en souviens plus ?
Si, bah, c'est l'histoire de... Ah oui, mais je veux pas spoiler, alors... On pourrait lire le quatrième de couverture.
Faisons ça.
Ouais, on va faire ça.
Le père est là. Dehors. Quelque part. La cage est désormais aussi vaste que le monde. Mais Dante est toujours son prisonnier.
Non loin de Rome, un homme affolé tente d'arrêter les voitures. Son fils de 8 ans a disparu et le corps de sa femme gît, décapité, au fond d'une clairière. Le commissaire Colomba Caselli ne croit pas à l'hypothèse du drame familial et fait appel à un expert en disparition de personnes, Dante Torre. Kidnappé enfant, il a grandi enfermé dans un silo à grains avant de parvenir à s'échapper. Pendant des années, son seul contact avec l'extérieur a été son mystérieux geôlier qu'il appelle le père. Colomba va confronter Dante à son pire cauchemar. Dans cette affaire, il reconnaît la signature de ce père jamais identifié, jamais arrêté.
Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de le lire avec cette quatrième de couverture.
Bah, quatrième de couverture, très bien fait.
Ouais, super bien faite, sans déconner. Il y a le high concept, il y a tout, c'est vraiment...
Ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis jeté sur ce livre.
Ouais. C'est un thriller, je trouve qu'il y a une écriture assez différente de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc pour moi, c'était nouveau.
Mais moi, pareil, hein. Pourtant, j'en lis un gros paquet. Et je sais pas, c'est peut-être que le fait que ce soit un Italien.
Oui, il y a une culture différente.
Voilà, une culture différente. D'ailleurs, Sandrone Dadiri, que j'ai rencontré à Quai du Polar, et qui est complètement à l'image de son écriture. C'est assez drôle, il est vraiment en adéquation. C'est un barbu d'un certain âge, mais qui est très rigolo et hyper... second degré, justement.
Caustique.
Il est caustique, voilà. Et il parle de sa ville natale et tout, d'ailleurs. C'est
Crémone.
Voilà, Crémone, ouais, il est de là-bas.
Il n'est pas romain, quoi.
Non, il est...
En même temps, on trouve un petit peu de Rome aussi.
Ouais, il y a beaucoup de Rome. Je pense que c'est pareil, il doit bien connaître. Mais enfin, vous pouvez le suivre sur Instagram, il habite dans la campagne, ouais. C'est, il fait des tartes, alors, c'est
petit,
génial.
Il y a un petit peu de Rome, mais en même temps, c'est pas un policier sur Rome.
Non.
La ville n'est pas très présente, donc je me tais, je dis rien.
Dans le deuxième, la ville est très présente.
Dans le deuxième, la ville est très présente. Ouais. Donc là, c'est plus ce qui se passe dans la tête de Dante Torre et qui est présent tout le temps. Quoi.
Alors, je trouve que sa façon de construire les personnages est vraiment très bien. Que Dante Torre, il est haut en couleur.
Oui.
Il a été donc, comme le dit le quatrième de couverture, enfermé dans un silo à grains
pendant des années,
et c'était son enfance
presque une dizaine d'années
C'est ça. Le père, donc, qui est son tortionnaire, il sait pas qui c'est, il a jamais vu son visage, il le forçait à apprendre des trucs par cœur, à parler allemand, il devait se frapper
la main, d'ailleurs il a la main
complètement atrophiée, il aime pas la faire voir, enfin voilà, c'est un personnage qui a vécu des choses très traumatisantes. Il est très intelligent, agoraphobe.
Il est très drogué. Il prend des benzodiapines.
Il est vegan.
Du Xanax, il prend plein de choses.
Oui. Il est vegan.
Et il fume.
Ouais, c'est vrai. Il fume beaucoup. Ah, il adore le café, mais
Les graines de tocapi, là.
Que les lémuriens mangent et des fecs.
Voilà.
Et il est super nazi carrément sur le café, parce que pour lui, tout est horrible en fait. Tout le café, même si on croit qu'il est bon, pour lui, c'est pas possible. Il connaît les températures. C'est assez marrant. Ce personnage, il est hyper, hyper attachant.
Et Colomba Caselli, elle est pas mal non plus.
Ouais, elle est pas mal aussi, ouais, c'est sûr. Une femme flic, dans un monde d'hommes, en Italie. Et elle est hyper borderline aussi, hein.
Ouais. Elle est juste limite là.
Elle est très limite dans la procédure, on va dire.
Dans la procédure, mais aussi dans sa vie en général.
Oui,
parce que déjà, elle commence le roman en étant mise à côté du service. Elle est pas en congé maladie, mais elle est.
C'est dans Tu tueras l'ange, donc le 2, c'est pareil. J'ai l'impression que. Qu'elle est pas. Je pense que ça l'aide à lui faire faire des choses qui sont en marge de toute procédure de police, quoi.
D'ailleurs, il y a un moment.
Colomba Caselli, il est éternellement hors service.
Ouais, c'est assez marrant. Hier, j'écoutais un passage où justement elle disait qu'elle savait encore faire la différence entre ce qui était illégal et ce qui était carrément meurtrier.
Ouais.
Et en fait, voilà, elle est dans l'illégalité tout le temps.
Donc, ce qui va bien avec Dante, qui est lui aussi vachement borderline, il a aussi. Il y a un autre personnage.
Santiago.
Voilà, qui est aussi haut en couleur. Je trouve que c'est assez original. Il y a une écriture et il y a un humour, je trouve, à l'intérieur qui est bienvenu, parce que c'est quand même très noir. Il se passe, je sais pas où, jusqu'où t'es allé.
Bah, ce qui se passe avec les enfants en général.
Ouais, voilà. De toute façon, un gamin qui a été enfermé dans un silo à grains pendant plus de 10 ans, c'est horrible.
Oui, et puis il y a la mère décapitée.
C'est sur fond de terrorisme. Je pense qu'il a été assez traumatisé par ça, parce que le 2 aussi. Ouais.
Et d'abus de pouvoir.
D'abus de pouvoir, un peu de thèse complotiste, entre guillemets, qui lui démonte, mais il ne passe pas à côté du fait qu'il y a des pouvoirs en place qui font des choses dont on n'est pas vraiment au courant. Et donc, voilà, c'est tout un melting pot, un mélange de tout ça dans ce livre. C'est assez haletant, ça bouge beaucoup. Ils se déplacent souvent, ils sont tout le temps recherchés ou par les méchants ou par les gentils.
Et ça dure 18h32 minutes.
Donc c'est 18h, ça dépote.
Voilà, donc ça dépote pendant 18h32 minutes. C'est vraiment bien.
Ouais, c'est vraiment bien. Très riche, voilà. Je trouve que l'écriture est très riche et l'histoire est très très riche. Bon. Alors il faut l'écouter d'une traite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser trop de temps entre les sessions d'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires.
Ils sont tous italiens, ils ont des noms qu'on ne connaît pas.
Alors, c'est fini toujours un peu pareil. Des fois, on ne sait plus trop qui est qui. mais voilà, donc on conseille ce livre, Cyril.
Bien sûr qu'on conseille ce livre.
On conseille ce livre, c'est très bien. Et puis, on parlera de la suite.
Oui, on parlera de la suite. Tu rallonges, c'est le deuxième livre, aussi lu par Mathieu Buscato. Donc
tu veux vraiment dire Mathieu Biasotto, toi.
Oui. Voilà, donc voilà. Voilà, c'est tout pour Tu tueras le père
de Sandrone Dazieri.
lu par Mathieu Biuscato, publié sur Audible exclusivement.
Ah, on n'avait pas dit ça. On avait oublié de dire que c'était une exclusivité Audible. Ouais, Audible. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Cyril, d'ailleurs ?
On a un peu de temps,
là, je vois.
Voilà, en ce moment, j'ai fait pas mal de choses, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que j'ai sorti un très bon livre audio d'un classique
de la
littérature anglo-saxonne.
C'est vrai.
L'appel de la forêt.
Tout à fait. Et à qui t'as demandé de le lire, justement ?
Un inconnu. Un bel inconnu, mais un inconnu quand même.
Dis-le, comme tu le dis.
Une narration impeccable et habitée de Florian Dennison.
J'ai cru que tu allais dire Florian Dennison.
Non, pas du tout. Donc voilà, ça c'est le dernier livre audio que j'ai sorti grâce au travail qu'on a fait ensemble.
Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir à l'écouter et à suivre ça. C'est bien parce qu'on travaille tous les deux la tête dans le guidon.
Ouais, ça c'est vrai.
Et là, justement, j'ai pris un petit peu de hauteur par rapport à la réalisation et par rapport à...
Ouais, tu l'as délégué un peu.
Voilà, j'ai délégué et ça m'a permis, moi, de mieux me positionner dans le travail, justement, de direction artistique ou de direction tout court de ce livre-là.
Et du coup, c'est un peu ce qu'on vous livre avec chacun des podcasts, voilà, c'est ce qu'on fait.
L'expérience
c'est, voilà, qu'on... C'est qu'on produit, on écoute, on essaie d'analyser, voilà, c'est ce qu'on vous livre.
Donc voilà, ça c'était mon actualité du moment.
L'appel de la forêt, c'est un très beau livre. Hein. Oui,
c'est vraiment un très beau livre. Ouais, c'est... Le livre lui-même en soi...
J'ai eu beaucoup d'émotions en le narrant. Donc j'espère que...
Vous l'apprécierez.
Ouais, on a eu plaisir à l'écouter.
Bon, et à la prochaine alors.
À la prochaine Cyril, merci d'avoir écouté, salut.